Les rendez-vous du Mantois. Tous les vendredis, de 8h à 8h20, BPM part à la rencontre des élus du territoire.
Bonjour à tous et bienvenue dans les rendez-vous du Mantois. Chaque semaine, nous recevons un élu local et aujourd'hui, c'est une rencontre un peu différente car nous ne sommes pas dans une mairie, mais au sein de la communauté urbaine du Grand Paris Seine-et-Oise, la plus importante communauté urbaine de France, née en 2016 de la fusion de 6 intercommunalités. Celle que l'on appelle plus communément GPSEO compte 73 communes et plus de 410 000 habitants. Pour en parler avec nous aujourd'hui, nous sommes reçus à Aubergenville, au siège, par sa présidente Cécile Zamit Popescu, qui est également conseillère départementale et maire de la commune de Melun-en-Yvelines. Madame la présidente, bonjour.
Bonjour.
Ensemble, nous allons parler du rôle de la GPSEO, tant dans sa proximité quotidienne que dans les projets au long cours, mais aussi des compétences reprises par certains maires. Nous approfondirons le rôle de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères qui fait la une ces derniers temps, ainsi que le compostage, puis nous parlerons mobilité, un autre point fort de la communauté urbaine. La GPSEO est donc connue principalement, en tout cas, par les habitants quand on leur en parle, quand on échange avec eux pour le territoire, pour l'eau, que ce soit le cycle global de l'eau, en somme l'eau qui sort du robinet jusqu'aux eaux usées, pour l'enlèvement des déchets ou encore la mobilité, mais peu savent que GPSEO, c'est 53 compétences différentes qui touchent concrètement tout notre quotidien, éclairage public, voirie avec les chaussées, ou encore la propreté et l'entretien des espaces verts, ou encore eh bien, la gestion des 11 piscines du territoire. GPSEO, Madame la Présidente, finalement, est avec nous tout au long de la journée.
Tout à fait, et vous avez raison de souligner que les habitants nous connaissent à travers ces compétences de proximité, parce qu'ils voient les logos de GPSEO sur tout simplement leur bac à ordures chez eux, ou ils le voient sur les bus qui les transportent tous les jours, donc vraiment sur des choses du quotidien.
Concrètement, il y a des compétences, vous le disiez, visibles et invisibles. Est-ce que vous pouvez nous en parler rapidement ?
Peut-être moins visible directement par l'habitant, toutes nos compétences en matière de développement économique, d'habitat, de politique de la ville, qui ne sautent pas aux yeux effectivement au quotidien pour les habitants, mais qui sont bien là. Moi, j'ai souhaité vraiment qu'on recentre notre action justement sur ces compétences du quotidien parce qu'elles concernent nos habitants, quel que soit leur âge, quel que soit leur quartier, quelle que soit leur ville, urbaine et rurale. Ces compétences du quotidien que vous avez citées, l'eau, l'assainissement, la gestion des déchets, la voirie dans sa globalité, la propreté de la voirie, l'entretien de la voirie, la réfection de la voirie avec ce qui va avec, le mobilier, l'éclairage public. C'est ce qui fait le quotidien des habitants et c'est aussi ce qui fait les attentes des maires vis-à-vis de la communauté urbaine.
Aujourd'hui, la communauté urbaine, elle est encore toute jeune, finalement, on peut dire, puisqu'on disait qu'elle a démarré en 2016. Est-ce que ça a été facile et est-ce qu'aujourd'hui, l'harmonisation des 6 anciennes intercommunalités a été facile à faire ?
Non, parce que chaque EPCI a fusionné dans cette communauté urbaine avec ses propres compétences, qui n'étaient pas toutes les mêmes selon les structures. Donc, il a fallu construire. Et aujourd'hui, on a trouvé notre route, mais la construction a été lente et certaines compétences n'ont pas été conservées par la communauté urbaine. Donc, il a fallu les restituer aux communes. Donc ça n'a pas été très simple dans les années de construction qui nous ont précédés.
Vous avez été élu à la présidence il y a près de 2 ans, après le départ de Raphaël Cogné, l'actuel maire de Mantes-la-Jolie. Et très vite, vous avez annoncé votre volonté de proposer au maire de redevenir acteur sur certaines compétences pour avoir plus de souplesse. Qu'est-ce qui vous a donné cette envie ?
Je dis toujours, je suis une présidente, mais je suis surtout un maire parmi d'autres maires. Donc nous sommes tous des collègues avec les mêmes attentes, les mêmes souhaits de réussite pour nos communes et pour cette communauté urbaine. Et moi, j'ai vraiment souhaité effectivement que les maires soient décisionnaires. Donc pour tout ce qui est compétences un peu stratégiques et surtout liées à notre quotidien et au quotidien des habitants, j'ai vraiment souhaité que les maires soient au centre des décisions. Alors, à travers des groupes de travail, des validations en conférence des maires, avant d'arriver sur le formalisme qu'est le vote d'une délibération en conseil communautaire.
Est-ce que vous avez l'impression qu'on passe d'une communauté urbaine plutôt subie à choisie, avec ce genre d'assouplissement en tout cas ?
Je l'espère. Je pense que c'est... Oui, on a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup progressé depuis 2016. Et je pense qu'aujourd'hui, les maires parviennent à s'identifier dans cette communauté urbaine, à comprendre qu'ils y participent pleinement et qu'ils participent pleinement aux décisions qui sont prises.
Quel type de compétences vous avez laissées, en tout cas potentiellement reprises par les maires ?
Alors, en fait, il n'y a pas de compétences directement reprises par les maires.
En tout cas, déléguées peut-être.
Voilà. La communauté urbaine, c'est un épisode de récent qui nous a été ouvert par la loi 3DS, qui est une loi qui souhaitait donner plus de proximité, plus de marge de manœuvre aux maires, et notamment dans ces grandes structures, dans ces grands EPCI. Cette loi permettait de proposer aux communes d'exercer certaines de nos compétences à notre place, donc elles ne sont pas restituées, elles sont simplement exercées à la place de la communauté urbaine. Et donc sur 73 communes, 11 ont fait le choix de reprendre quelques compétences en exercice, donc à la place de la communauté urbaine. Donc c'est pour certains les espaces verts, pour d'autres la propreté urbaine, pour d'autres c'est la voirie. Alors pas les investissements, puisque la CU continue à porter pleinement pour les 73 communes les investissements, mais voilà, tout ce qui est réparation de nids de poules, voilà, petits travaux de voirie. Certes, donc parmi ces communes, certaines ont souhaité récupérer l'exercice de ces compétences.
Justement, sur notre antenne, nous avions reçu Jamel Nedjar, le maire de Limay, et Raphaël Cognier, maire de Mantes-la-Jolie, qui nous avait expliqué pourquoi justement ils souhaitaient reprendre la compétence de la propreté des espaces verts. Comment vous percevez le fait que certains aient voulu reprendre ces compétences ?
Je vais pas dire que ça me fait plaisir. Voilà, je vais être très honnête. Pour la bonne raison que justement on a mis du temps à structurer les choses. Aujourd'hui, on a réorganisé tous nos centres techniques. On progresse vraiment et les maires nous le disent, hein. La preuve, c'est qu'il y en a 62 qui ont surtout pas souhaité justement exercer ces compétences à notre place, parce que vraiment on a progressé et je pense qu'on ne peut que aller toujours vers de l'amélioration. Donc je trouve dommage, au moment où on est vraiment dans cette phase de progression, d'avoir des collègues qui n'ont pas donné sa chance à la CU jusqu'au bout.
Voilà. Un autre grand sujet en ce moment, c'est bien sûr dans les communes la modification de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, la fameuse TEOM. Il y avait jusqu'à présent une trentaine de taux différents, on comprend bien que c'était énorme. Comment avez-vous fait pour arriver à seulement 4 services et surtout pourquoi l'avoir voulu ?
Alors la loi nous l'impose avant 2027. L'harmonisation de cet tome. Le sujet avait été largement laissé de côté parce que sujet très compliqué, hein, donc il faisait partie des sujets qui n'avaient pas été traités précédemment. Donc moi je souhaitais vraiment qu'on puisse s'inscrire dans une dynamique et de ne pas subir la loi sans réfléchir. Et pour réfléchir, on a mis là aussi en place un groupe de travail, comme d'ailleurs pour la voirie. À chaque fois, ce groupe de travail, il est composé des différentes tendances politiques du conseil communautaire et de maires ruraux, de maires dans des grandes communes. On essaie d'être très très variés.
Et ce groupe pour les groupes de travail, ça veut dire que vous prenez des maires de différents bords, de différents endroits, oui, horizons, pour ensuite pouvoir travailler ensemble et aboutir sur les décisions.
À des propositions de solutions. Donc c'est ce qu'on a fait pour les déchets, c'est plus de 70 heures de travail, ce groupe déchets, et ce groupe déchets est arrivé à cette proposition d'un taux de TEOM différencié selon des services différenciés. Donc on répond à notre obligation légale puisqu'il est harmonisé à l'échelle de la communauté urbaine avec des taux qui sont différents selon le service proposé. Donc cette solution, elle a été présentée en conférence des maires, elle a été validée par la conférence des maires. Et ensuite, on a demandé à chaque commune de se positionner sur un choix de service avec un taux de TEOM correspondant à ce choix de service.
Ça a été un travail de longue haleine.
Oui. Ça a pris plusieurs mois. On pensait pas du tout arriver sur cette solution. Vraiment, hein, au départ, de façon angélique, nous pensions arriver à un taux de TEOM unique avec un service unique à l'échelle des 73 communes. Mais c'est pas là-dessus que nous sommes arrivés.
Vous espériez ça ? Un seul taux ? C'est ça ? C'est ce que vous aimeriez peut-être à terme ? Ou au contraire, maintenant que vous avez réussi à mettre tout le monde d'accord sur 4 taux finalement ?
Je pense qu'on arrivera à une solution unique parce que on sera rattrapé par la loi et les lois en matière environnementale et qu'à un moment donné, on nous dira ben, « vous ne pouvez plus continuer à transporter des déchets verts en camion, vous ne pouvez plus continuer à transporter du verre VE2RE en camion ». Je pense qu'à un moment, les choses s'imposeront à nous sur un volet environnemental, mais également sur un volet financier, parce que ces solutions qui ont été proposées et ces taux de TOM ne correspondant ne permettent pas aujourd'hui d'équilibrer le budget déchets qui est alimenté pour plusieurs millions chaque année par encore le budget général.
Puisque la taxe est aujourd'hui encore déficitaire.
Tout à fait.
Malgré le nouveau taux mis en place ?
La compétence est déficitaire. Le taux ne suffit pas à compenser le déficit de cette compétence.
Vous l'avez dit là en quelques mots. Un point effectivement qui est assez surprenant. Certaines communes conservent la collecte du verre en porte-à-porte. On sait que c'est pourtant plus aujourd'hui très écologique. Comment est-ce que vous le ressentez, ça ? C'était un choix de certaines communes de le continuer ? Est-ce que c'était une volonté de votre part ?
Alors non, parce qu'en ce qui me concerne, à Melun, on va le supprimer, voilà. Il existait, mais on va le supprimer. On n'a pas réussi, je pense, à convaincre nos maires sur ces arguments environnementaux. Ce qui était très important pour eux tous, c'était de conserver les services qu'ils avaient auparavant dans leur commune, de surtout pas modifier ces services. Ce qui peut s'entendre pour ceux qui ont des taux de TOM, enfin qui avaient des taux de TOM très peu élevés, qui ne correspondaient pas au niveau de service, parce que dans certaines communes, on avait des taux de TOM très bas, des niveaux de service très élevés, et inversement, dans d'autres, eh ben, des niveaux de TOM très élevés avec peu de services. Donc, ceux qui avaient des taux de TOM très bas, et ça représente quand même un grand nombre de communes dans GPSEO, j'entends tout à fait, politiquement, qu'il soit très compliqué de dire ben, on augmente la TOM et en plus on réduit le service.
Une forme de double peine.
Exactement. C'est très difficile à porter auprès des habitants. Et la sensibilité environnementale, elle est peut-être pas encore mûre chez nos habitants pour l'accepter.
Donc c'est peut-être déjà une première grande marche, finalement, de franchie ?
C'est comme ça qu'on le prend et je pense que chacun est conscient parmi les élus de la communauté urbaine que c'est une étape. Mais c'est une grande étape puisqu'on partait de très loin, comme vous l'avez souligné, 30 taux de TOM différents et bien évidemment des services très différents également selon les communes.
La taxe, elle parle de l'enlèvement des déchets, mais à quoi elle sert exactement ?
Elle doit financer, normalement, elle doit financer l'intégralité de la compétence déchets. Et ça, ça comporte à la fois la collecte et le traitement des déchets.
Parce que c'est vrai que souvent, le terme laisse à penser uniquement l'enlèvement, mais il y a aussi tout le traitement derrière.
Bien sûr, avec des coûts qui augmentent hein, et ce qui nous échappe, puisque ce sont des taxes fixées par l'État, notamment sur les activités polluantes, qui sont des taxes qui augmentent de façon très, très importante chaque année. Par exemple, pour l'incinération, et c'est, du coup, ça nous augmente mécaniquement les coûts en nous échappant totalement.
On sait qu'aujourd'hui, à terme, il va falloir surtout réduire nos déchets pour arriver à quelque chose de meilleur. Et d'ailleurs, dès le 1er janvier, il nous faudra également composter les déchets alimentaires. Est-ce que nous sommes tous prêts à ça ?
Non. Comme partout en France, on a vraiment vraiment multiplié nous la pédagogie et l'aide matérielle pour le compost individuel puisqu'on distribue des composteurs et on en distribue de plus en plus avec des campagnes d'accompagnement, hein, c'est-à-dire qu'on vient pas juste chercher son composteur, on est vraiment accompagné par les agents sur l'utilisation de ces composteurs. Là où c'est plus compliqué, c'est bien évidemment dans l'habitat collectif, où il y a quelques expérimentations, mais on n'y est pas encore aujourd'hui. Et puis les composteurs sur l'espace public, c'est très très difficile à mettre en place, puisque ça veut dire qu'on a derrière une association qui va être là 24/24 pour regarder ce qui se passe. Parce que vous vous imaginez bien, quand vous laissez un composteur sur l'espace public, vous retrouvez n'importe quoi dedans.
Il y a parfois du vrai, parfois du faux dans ce qu'on entend. Y aura-t-il des amendes pour ceux qui ne le font pas à partir du 1er janvier ?
Non, pas du tout. Donc je sais qu'il y a un gros coup de pression des médias sur ce sujet des biodéchets. Alors les biodéchets, c'est pas seulement les épluchures de légumes et de fruits, mais c'est aussi les déchets de poissons et de viande pour lesquels il n'existe aucune solution aujourd'hui puisqu'on ne met pas de déchets carnés dans un composteur. Donc la solution n'existe pas aujourd'hui, on n'a pas de filière, hein, donc on n'a ni la collecte ni le traitement de ce type de déchets. Donc ce qui est proposé à la habitants aujourd'hui, c'est de l'accompagner avec la mise en place de composteurs individuels.
Donc ce ne sera pas encore obligatoire véritablement à partir du 1er janvier ?
La loi n'est pas précise. La loi, ce qu'elle nous dit, c'est que l'usager doit tout faire pour trier ses biodéchets et que la collectivité doit mettre des moyens à sa disposition. Donc en fait, on répond à notre obligation légale en accentuant cette distribution de composteurs. Mais il faut pas que les gens s'affolent, bien évidemment, puisque les solutions de filières, de collecte, de filières de traitement n'existent pas. De toute façon, on ne va pas imposer à l'habitant de faire ce qu'il ne peut pas faire.
Donc pour l'instant, on est plutôt dans une solution qui va vers cette solution, mais pas encore de mise en place véritablement au 1er janvier.
Bah, la solution, elle existe, puisque la réponse, c'est le composteur individuel, aujourd'hui.
Nous le disions évidemment aussi en préambule, beaucoup d'habitants connaissent GPSEO principalement pour la mobilité. C'est en tout cas ce qui revient le plus, les transports en commun. Mais il s'agit d'un travail à plusieurs échelles, allant de la région Île-de-France à chaque commune, en passant par la communauté urbaine et le département. Aujourd'hui, vous mettez en avant les mobilités douces. Vous avez déjà réalisé 63 km de parcours cyclisme dans le cadre de la Seine à vélo. Qu'en est-il pour 2024 ?
Alors juste, oui, je comprends ce que vous dites quand on peut-être... Vous dites que les habitants nous connaissent à travers les mobilités parce que nous avons des logos, surtout les bus qui circulent sur notre territoire. Mais je rappelle que nous ne sommes pas l'autorité organisatrice des transports, puisque c'est la compétence de la région à travers Île-de-France Mobilité, et que nous faisons un chèque chaque année à Île-de-France Mobilité pour participer au financement de la compétence. Donc c'est à peu près 7 millions par an. Mais par ailleurs, nous sommes compétents sur tout ce qui est mobilité douce, directement compétent, et on a défini un schéma cyclable il y a quelques années déjà, que nous mettons en place à travers une programmation d'investissement pluriannuel. Donc chaque année on essaie de travailler sur des pistes cyclables sur le territoire, et puis nous avons également mis en expérimentation sur plusieurs communes les trottinettes et vélos électriques, avec un retour d'expérience très positif, même si tout le monde nous a regardé d'un œil inquiet au départ, compte tenu de la désastreuse expérience parisienne.
Et on... C'est vrai que les deux sont tombés en même temps.
Tout à fait.
C'est-à-dire que vous les avez lancés quand eux les ont arrêtés.
Exactement. Donc, du coup, ça a inquiété certains élus, ça a inquiété nos habitants. Mais en fait, le retour d'expérience, il est plus que positif, puisque l'utilisation, elle est beaucoup plus importante que ce qui était programmé par l'opérateur, à la surprise générale. Mais ça veut dire que c'est un vrai outil de mobilité à disposition pour nos habitants, pour les déplacements gare, les déplacements de loisirs. On est très content de cette expérimentation.
Comment vous expliquez cet engouement un peu finalement surprenant?
En tout cas,
plus qu'attendu.
Oui, bah c'est la simplicité. Vous prenez un vélo ou une trottinette à côté de chez vous en partant le matin. Vous allez prendre votre train parfois dans une autre commune, parfois de l'autre côté de la Seine. Et vous pouvez déposer, avant de monter dans le train, votre vélo, votre trottinette. Et même chose en revenant le soir. Ce qui vous évite de vous promener toute la journée avec votre vélo, ce qui est pas toujours évident, ou avec votre trottinette. Donc non, franchement, c'est une très très bonne solution. Et il y a de plus en plus de communes de la communauté urbaine, du coup, qui demande également à bénéficier au regard de cette expérimentation positive, de pouvoir également bénéficier de ce dispositif.
Donc en 2024, il peut y en avoir d'autres qui s'installent?
Oui, parce que là, ça a été même sur l'année 2023, où on a eu quelques villes supplémentaires, donc je pense que ça va progresser. Et puis ça peut être une réponse pour la ruralité aussi. Voilà. Parce que pour l'instant, c'est plutôt dans les villes, avec des gares. Voilà. Mais l'idée, c'est que justement, ça puisse servir en ruralité dans les communes limitrophes de communes qui ont des gares, où là, ça serait vraiment, je pense, extrêmement utile.
Vous avez parlé de traverser la Seine, et justement, ça passe aussi par de grands projets en termes de mobilité douce qui vont arriver sur 2024. Est-ce que vous pouvez nous en parler ?
Alors, c'est un vrai sujet, cette traversée de Seine. Bon, vous savez qu'il y a une première passerelle, demi-passerelle, hein, puisqu'elle est pas finalisée entre Mantes-la-Jolie et Limay. Donc, un projet de passerelle qui se finalise entre Carrières sous Poissy et Poissy. Et un projet qui est à l'étude entre Melun et les Mureaux. Donc c'est une problématique, cette traversée de Seine, une problématique routière pour laquelle on n'a pas de réponse immédiate. Bon, le projet du pont d'Achère, mais ça va pas résoudre tous les problèmes en vallée de Seine. On n'a pas assez de ponts, on va être très clair, hein, on n'a pas assez de ponts. Ces projets de ponts routiers, c'est des projets qui se font sur des décennies avec des investissements extrêmement lourds, qui sont pas de notre compétence directe. En revanche, voilà, les passerelles, ça peut être une solution pour les mobilités douces auxquelles sont de plus en plus sensibles, notamment les jeunes.
La GPSEO, c'est aussi bien sûr la culture et l'accompagnement au développement culturel. Et le territoire d'ailleurs n'en manque pas. Prochainement, il y a la Biennale de la danse qui revient, quelque chose que vous accompagnez ?
Oui, qui est complètement porté par la communauté urbaine. Alors nous, sur la culture, on est porteur d'équipements. Hein. On a en compétence le centre de la danse au Mureau, la médiathèque qui est située au Mureau aussi, qui est un peu tête de pont pour tout ce qu'on déploie en termes de lecture publique. On a le conservatoire de Mantes, qui est un labellisé conservatoire à rayonnement départemental. Voilà, on a le château éphémère à Carrières-sous-Poissy. Donc on a plusieurs équipements culturels, mais l'idée c'est de pouvoir développer une action culturelle rayonnante qui puisse bénéficier à l'ensemble des habitants du territoire. Donc on a plusieurs événements dans lesquels on arrive à inclure un certain nombre de communes, comme dans la Biennale de la danse où on a une quinzaine de communes qui participent et qui s'inscrivent dans cette dynamique générale de rayonnement sur l'ensemble du territoire.
C'est un moyen aussi de soutenir les acteurs locaux ?
Oui, pas que. Hein. On a bien sûr du soutien aux acteurs locaux. Sur cette Biennale de la danse, c'est une très bonne illustration. Mais on ne fait pas que ça. On fait aussi de la résidence d'artistes. On fait aussi travailler des extérieurs. Hein. Donc, on essaie d'être quand même varié sur notre action culturelle.
2024, c'est déjà un peu demain. Qu'est-ce que vous espérez pour cette année ?
Quoi vous dire ? Je vais pas dire que j'espère quelque chose pour la communauté urbaine. J'espère que du meilleur pour les communes qui la composent. Parce que la situation est de plus en plus compliquée pour les collectivités locales. On va pas se mentir. On a des dépenses en augmentation permanente de façon mécanique. Hein, parce que c'est le personnel. Parce que ce sont les fluides. Parce que ce sont les assurances. Voilà, des tas d'augmentations mécaniques de nos dépenses sans avoir les financements en face avec des dotations qui, elles, sont toujours en réduction. Donc l'équation, elle est très très compliquée. Et chaque année, on est un certain nombre de maires à s'arracher les cheveux pour tout simplement équilibrer nos budgets communaux.
Eh bien, ce sera le mot de la fin. Madame la Présidente, merci de nous avoir ouvert les portes du Grand Paris Seine-et-Oise. Cette émission est à présent terminée. Vous pouvez la retrouver en podcast sur notre site internet bpmlaradio.com. Je vous retrouve dans quelques minutes pour le journal d'information locale. Tout de suite, Pauline et Fredo reviennent avec la Mantinale sur BPM. Très bonne journée.
Les rendez-vous du Mantois, tous les vendredis, de 8h à 8h20, BPM part à la rencontre des élus du Mantois.